Bonsoir tout le monde, mardi soir, c'est évidemment live sur Géopoétique Profonde, 19h. On vous prépare un mois de mars, du tonnerre, de feu de Dieu, que des stars, que des exclusivités Géopoétique Profonde. Donc on compte sur vous, hein, compte que vous vous abonniez massivement à Géopoétique Profonde. Merci d'ailleurs, nous avons multiplié par 5 nos nombres d'abonnés. Vous n'hésitez pas aussi à allez sur rejoindre le club de Géopolitique Profonde, vous aurez des exclusivités, donc vous y allez, voilà, vous allez en bas, rejoindre le YouTube de Géopolitique Profonde. Ce soir, nous allons parler Église, nous allons parler souveraineté, patriotisme, euro-identitaire aussi. On aura un gros euro-débat, euro-identitaire, avec l'ami Raphaël Venot, président de France Solidaire, un jeune, voilà, enfin des jeunes qui milite dans des partis politiques ou qui crée même des partis politiques. Je l'ai eu, je crois, il y a à peu près un an, d'ailleurs, hein. À peu près un an, on a eu une belle discussion ensemble. Depuis, ben, c'est devenu un incontournable. Il passe sur Courtoisie, il passe sur l'incorrect, il passe sur Causeur, il passe partout. Et évidemment, sur Géopolitique Profonde. Salut, cher Raphaël, comment vas-tu?
Bonjour Mike, bah ça va très bien, merci pour ton invitation et c'est vrai qu'on s'est eu il y a à peu près un an maintenant et bah ça fait plaisir de se revoir.
Bah, c'est normal, tu as des choses à dire. Donc, tu es président de Force Solidaire. Raconte-nous un peu ton parti. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà, sur quoi vous militez?
Alors, Force Solidaire, c'est une association politique, un mouvement politique que j'ai créé le 5 mai 2021. Donc, ça va faire 2 ans bientôt, dans quelques mois. Nous sommes un parti dont voilà, notre devise, c'est patriotisme, souverainisme et méritocratie. Et on défend un certain nombre de combats. Aujourd'hui, notre but, c'est de faire émerger des idées et de les proposer aux gens qui ont le pouvoir pour faire avancer les choses concrètement. C'est-à-dire que demain, on pourra se présenter aux différentes élections. Mais aujourd'hui, on axe notre combat sur de deux manières. La formation de nos adhérents pour faire en sorte que ce soit des militants compétents et solides dans leurs propos. Et la proposition aux mouvements qui peuvent reprendre nos idées pour faire avancer les choses concrètement. Parce que pour nous, ça ne sert à rien de faire de la figuration, de juste agiter les bras en hurlant. Quand on fait de la politique, c'est pour faire avancer les choses concrètement, aujourd'hui, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est saisi du problème des églises de France dont on va parler. Et on est allé apporter nos propositions aux mouvements qui peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, concrètement, ceux qui peuvent faire quelque chose de notre camp ou qui se rapprochent de notre camp, c'est le Rassemblement national. Et donc, nous, on est dans le dialogue et la communication avec ces autres mouvements.
Ah, c'est plus le Rassemblement national, le Cercle Aristote aussi, je crois, de Pierre-Yves Rougeron.
Bien sûr, le Cercle Aristote, la différence entre le Cercle Aristote et le Rassemblement national, le Cercle Aristote que je salue, puisque donc ils m'ont invité récemment et qui sont tout à fait sympathiques, le Rassemblement national aujourd'hui a des députés et peut faire avancer les choses, mettre les choses à l'agenda public, politique, concrètement, tout de suite. Donc c'est pour ça que je parle du Rassemblement national. Mais nous, on est ouvert à tout le monde du camp national pour avec qui on peut discuter et faire avancer les choses, clairement.
Avec Zemmour et ça se passe ou
Bien sûr, avec Zemmour aussi, tout
d'accord.
à fait. Nous avons des adhérents d'ailleurs qui viennent de Reconquête. On est vraiment ouvert à tous tant que la ligne est claire et qu'elle est défendue et qu'elle est pour le pays.
Mais quand on a ton âge, je crois que tu as à peu près 25 ans, c'est ça?
Non, 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 j'ai 22 ans.
Ah,
22 ans.
22 ans. Quand on a 22 ans, est-ce qu'on se lève un matin, on se dit, tiens, je vais créer un parti souverainiste et patriote, voilà.
Non, 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 on se dit pas ça un matin comme ça. En fait, c'était quelque chose de pensé et en même temps, effectivement, de quand même faire un petit peu plus rapidement que ce que je pensais. J'ai été à la faculté de Nanterre, donc à Paris, où j'ai eu des expériences assez contrastées avec les militants d'extrême gauche locaux. Bon, je vais pas tout détailler, mais le fait est que j'ai été suivi chez moi, dans la rue, ce genre de choses. Et j'étais déjà politisé, mais je me suis forcé à m'engager politiquement. Et pour moi, le problème de l'université n'était pas un problème, c'était qu'un reflet de toute une série de problèmes, de toute une décadence de la société en général. Donc, il fallait agir à un niveau supérieur. Et donc, je me suis intéressé évidemment au mouvement politique qui correspondait à mes idées. Alors, à l'époque, Reconquête n'existait pas, mais le Rassemblement national, évidemment, les Patriotes aussi. Et j'ai un petit peu regardé de ce côté-là. Et les mouvements étaient très intéressants et pouvaient faire avancer les choses. Mais j'avais des idées qui étaient différentes sur certains points avec ces deux mouvements. Et j'ai décidé donc de créer ce qui devait être à l'origine plutôt un laboratoire d'idées et ce qui est devenu un mouvement politique suite à une concertation avec tous les gens qui voulaient participer au projet. Mais comme je l'ai dit, le but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont plus en avance sur nous, c'est de leur proposer des choses. Et via la compétition des idées, c'est peut-être mon côté un peu libéral de ce côté-là, mais via la compétition des idées, à mon sens, émergeront les meilleurs et les meilleures solutions pour le pays. Et ensuite, le jour J, le jour des élections, eh bien, le mieux placé sera mis en avant, et je te l'expliquais déjà l'année dernière, c'est ce qu'on a fait notamment pour les législatives. On voulait proposer des candidats. Quand on a vu que sur la circonscription qu'on voulait, il y avait déjà des candidats RN ou des candidats Reconquête qui étaient bien placés, on a fait un pas de retrait, on a dit pour le moment, nous on est petits, donc on vous propose nos idées, si vous les prenez, vous les prenez pas, et bonne chance à vous.
Donc du coup, tu as parlé de formation, est-ce qu'il y a besoin pour le coup, je pense, hein, il y a besoin quand même de former les jeunes patriotes et souverainistes, parce que malgré tout, on a quand même l'impression que ces jeunes-là sont pour l'instant, je dis bien pour l'instant, moins bien formés quand même que les jeunes progressistes, si je puis dire, ou les mondialistes.
Il y a beaucoup de fougue, hein, dans la jeunesse, donc, et je m'inclus dedans, bien sûr. Donc, il faut saisir cette énergie, ça c'est une certitude. Alors, est-ce qu'ils sont moins formés que le camp en face ? Oui. Et tu as tout à fait raison de ce point de vue-là, et ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que quand on est dans le camp, de la doxa, dans le camp du politiquement correct, et les sources d'information, on les a à l'école, on les a à la télé, on les a à la radio, dans les journaux, on les a des parents. Bref, l'accessibilité des sources d'information est énorme en fait. Donc l'apprentissage se fait depuis tout jeune de ce côté-là. Et d'ailleurs, tous les gens de notre camp ont sans doute subi une propagande du camp opposé à un moment et ont des connaissances de ce camp opposé. Et la deuxième raison, c'est un facteur social et économique, c'est que, par exemple, pour prendre le Rassemblement National, un électorat plus populaire qui travaille manuellement, qui a des travails parfois épuisants et donc qui ont moins le temps de s'informer, c'est certain que quand on voit que plus on augmente en diplôme, alors je crois que ça va jusqu'à Macron pour les plus... les diplômés, mais sinon ça vote Mélenchon à Bac+5. Bon, un étudiant qui a 5 ans de sociologie derrière lui, alors certes, il aura peut-être pas le meilleur métier du monde, mais il a quand même 5 ans et eu 5 ans pour travailler ses sujets, et il sera peut-être plus informé politiquement que quelqu'un qui a un métier épuisant et qui peut pas se poser tous les soirs à la bibliothèque. Donc voilà les deux facteurs de pourquoi est-ce que il y a un déficit de formation de notre côté. Mais du coup, nous, on souhaite y remédier, évidemment. Alors on a beaucoup de gens très brillants et on a beaucoup d'étudiants. J'ai lancé, alors je m'en suis occupé personnellement du coup, puisque c'est ce que je préfère, une formation avec mes adhérents d'histoire des idées politiques. Donc on a fait une formation, je leur ai fait une première leçon sur Confucius, une deuxième sur Platon et Diogène, une troisième sur Aristote, une quatrième sur la pensée chrétienne, et là on va évoquer bientôt Machiavel et Hobbes. C'est du basique, mais ces formations ont été très saluées par les adhérents et ont été fortement appréciées. Et suite à celle-ci, nous allons lancer une série de formations avec un monsieur qui est dans notre association, qui est notamment professeur et qui va être responsable formation de Force Solidaire. Et on va lancer toute une série de formations, notamment, qui me semble fondamentale, sur l'histoire de France, sur l'économie, des bases en économie, parce que on se laisse très souvent enfumer par du jargon économique. Il est nécessaire d'avoir des bases. Et pourquoi pas, il y a beaucoup de formations auxquelles on pense, mais j'aimerais aussi en faire une sur, avec à l'aide d'un ami qui est mathématicien, lancer une formation de base de statistiques pour savoir comment utiliser les statistiques. Bref, tout ça, c'est de l'ordre du projet, mais ça avance bien et on cherche effectivement à faire en sorte que nos adhérents soient le plus formés intellectuellement possible pour faire avancer nos idées.
Très bien, ça, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie, nous aussi, de faire en géopolitique profonde, c'est-à-dire de donner le plus d'informations possibles qu'ils n'ont pas dans les médias mainstream, pour que justement les gens aient la connaissance, parce que c'est avec la connaissance qu'on réussit. L'ignorance, c'est le pouvoir des élites, hein. C'est leur pouvoir, eux, c'est pas le vôtre. Alors toi, du coup, tu milites actuellement pour sauver les églises. Pourquoi les églises ?
Alors, on entre dans le cœur du sujet. Pourquoi les églises ? Vaste question. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on s'est saisi du sujet ? Je vais un peu raconter ça. Déjà, les églises, évidemment, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours touché. Je vous parlais évidemment d'un auteur très connu, Maurice Barrès, dont on fêtera le centenaire de la mort ce décembre 2023. Et j'ai découvert Maurice Barrès au collège avec son livre La Grande Pitié des Églises de France, justement. Alors depuis, j'ai lu beaucoup de choses de Barrès, mais c'est avec ce livre que je l'ai découvert. Et donc, ça m'a sensibilisé forcément depuis assez jeune à cette question. Et en fait, le 6 juillet dernier est sorti un rapport du Sénat qui citait l'Observatoire du patrimoine religieux, nous disant que d'ici 2030, jusqu'à 5 000 églises pourraient être détruites. Alors quand j'ai vu ça, évidemment, comme tout bon Français, je pense, qui s'intéresse à son patrimoine, j'ai été horrifié. J'ai envoyé un message à mes adhérents, je leur ai dit, écoutez, ce sujet, moi, m'importe énormément et je pense qu'il est très important pour les Français. Est-ce que vous voulez qu'on se saisisse de la question? Ils ont tous répondu oui. Alors, on s'est saisi de la question et on en a fait notre combat principal depuis septembre dernier, vraiment, où on fait ça, je dirais, au moins à 50% de notre temps, de notre travail, et moi, beaucoup plus. Alors, pourquoi les églises? Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien sûr, on va en parler là, donc je vais faire un tout petit développement, mais les églises de France représentent quelque chose, c'est la représentation, mais aussi le ciment de notre identité. La France, elle s'est construite sur une accumulation, comme toute culture et toute civilisation, une accumulation de couches intellectuelles, historiques et ethniques. Et cette accumulation de couches, en France, elle s'est faite par la fusion de trois peuples et qui ont chacun apporté quelque chose, le peuple gaulois celtique, le peuple romain et les tribus germaniques franques. Et chacun de ces peuples a apporté quelque chose, surtout les Romains qui ont apporté le droit, l'administration, mais des Gaulois, on a encore le travail de la terre, tout un tas de choses. Bref. Et cette fusion, elle n'a été rendue possible que parce qu'elle s'est faite sous l'égide de la religion chrétienne, de la religion catholique, hein, qui est devenue catholique après. Et c'est cette égide catholique qui a permis cette fusion. C'est d'ailleurs Clovis qui se fait baptiser, hein, je vais pas vous l'apprendre, et c'est parce qu'il a choisi le catholicisme et non pas l'arianisme qu'il a obtenu le soutien de Rome. Et donc cette Église catholique est au fondement de notre identité et tout ce qui découle ensuite dans l'histoire de France se fait grâce à cette fusion sous l'égide catholique. Et ces églises, ainsi, représentent matériellement cette fusion avec un maillage fin qui parcourt tout notre territoire et qui représente donc à la fois son unité de Français, puisqu'il y en a partout, et d'ailleurs les communes en France aujourd'hui, quand elles ont été créées sur les paroisses, hein, et dans ces communes, l'église existait bien avant la mairie. Et donc, elle représente à la fois notre unité, mais aussi toute la richesse de notre diversité, c'est-à-dire qu'on ne retrouve évidemment pas les mêmes églises entre les églises romanes, gothiques, classiques, baroques, ou les églises construites dans telle pierre ou telle autre, ou à telle époque, telle région. Bref, cette diversité et cette unité est représentée à travers les églises. Et pour tout le monde a à côté de chez lui une église, que ce soit juste à côté à la fenêtre ou un petit peu plus loin, tout le monde connaît l'église de son village. Et quand on visite un village ou qu'on visite une ville, qu'on la traverse sur un trajet, eh ben, le premier endroit où on s'arrête, on se dit, ah tiens, où est l'église? Parce que je sais que c'est le centre du village. Donc cette église, elle représente un attachement local, un enracinement local, une identité locale et donc notre identité de Français. Et les voir tomber en ruine, c'est finalement, ça représente bien l'image de notre déclin.
Aujourd'hui, nous avons combien d'églises ont été construites en France?
Ça c'est la question vraiment. On peut se dire, bah oui, c'est la question. On va commencer l'entretien sur ça. Ça me semble évident et je serai le premier à le dire. Mais on a un problème. C'est que aujourd'hui, on ne sait pas en fait. Et ça, c'est tout le pourquoi est-ce que je me suis saisi de la question. Donc, je peux vous donner des chiffres. On sait qu'on a, d'après donc le rapport du Sénat et l'Observatoire du patrimoine religieux, à peu près 100 000 édifices religieux en France. Sur ces 100 000, on peut se dire que 95, 90 000 sont des édifices catholiques, derrière des édifices protestants, juifs, musulmans, même un temple bouddhiste, enfin voilà. Mais ces édifices, ces 95 000, c'est aussi des chapelles, voilà, c'est tout un tas de choses. Cependant, on a le chiffre un peu plus précis grâce à un inventaire qui avait été fait dans les années 80, où on sait qu'on a à peu près 40 000 églises paroissiales en France, donc on partirait sur ce chiffre-là. Mais le dernier inventaire, il a été réalisé dans les années 80. Il était incomplet, il a été déclaré comme incomplet, appelé à être complété et vérifié, parce que c'est bien d'avoir un inventaire, mais encore faut-il savoir l'état des églises. Et évidemment, ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait, et c'est la première chose qu'on a dit lors de ce qu'on a fait notre combat. En fait, on peut faire toutes les politiques du monde pour sauvegarder les églises, mais si on ne sait pas combien d'églises on a et comment elles vont, ça ne sert à rien. Donc, on a à peu près 40 000 églises paroissiales qui appartiennent aux communes depuis donc une loi de 1908 qui modifiait la loi de 1905. Toutes les églises paroissiales construites avant 1905 appartiennent désormais aux communes.
Elles n'appartiennent pas à l'État.
Elles appartiennent aux communes. Donc après, on peut prendre l'État au sens large, mais aujourd'hui, elles appartiennent aux collectivités territoriales, les communes. Alors, on a des cathédrales qui appartiennent à l'État, mais les églises paroissiales appartiennent aux communes. Et là est malheureusement la source de beaucoup de problèmes.
Donc, c'est-à-dire que il y en a qui appartiennent à l'État, certaines aux communes, et après la loi de 1908, à l'archevêché.
Non, après la loi de 1908, justement, elles appartiennent toutes aux communes désormais, parce qu'avant, on avait le régime concordataire, et en fait, en 1905, la loi a demandé aux religions, aux églises, de se constituer en association cultuelle pour gérer leurs églises locales. Ça n'a pas posé problème pour le judaïsme ni pour le protestantisme, mais le catholicisme a refusé. Ils ont dit non. On ne fait pas ça. Et donc, devant ce refus, il fallait bien gérer les églises. Donc, il y a eu une loi de 1908 qui est venue corriger ça et qui a, du coup, donné la propriété des communes, des églises, pardon, aux communes. Voilà. Les églises paroissiales, donc, aujourd'hui, appartiennent aux communes. Et toutes celles construites avant 1905.
Et qu'est-ce qui pose problème ? Oui, c'est-à-dire que mais celles construites après 1908, elles appartiennent à qui ?
Alors, justement, celles qui sont construites après 1905, alors soit c'est les anciennes églises qui ont été détruites lors des guerres mondiales, et dans ce cas-là, elles sont reconstruites et elles appartiennent aux communes, soit, bien, du coup, elles appartiennent aux associations cultuelles, donc aux diocèses en général, qui les ont construites après coup.
Qu'est-ce qui pose problème, parce que j'ai vu que tu as tiqué, au niveau de la gestion des communes ?
Oui, alors, il y a effectivement deux gros problèmes. Déjà, le plus gros problème, le plus évident, c'est une question budgétaire. Les communes, aujourd'hui, elles peuvent avoir de l'aide, effectivement, mais en fait, il y a un article de loi du Code général des collectivités territoriales qui fait que les communes doivent au moins financer 20% des travaux de rénovation. Et pour plein de communes, ça n'est juste pas possible. Elles n'ont pas les moyens, ça n'est pas possible. Et en plus de ça, l'État ne va verser des subventions que aux communes, aux églises inscrites ou classées, en général classées, aux monuments historiques. Et c'est le cas seulement de 15 000 édifices religieux, donc même pas 15 000 églises. Donc il y a plein d'églises qui ne sont pas classées et les communes n'ont absolument pas les moyens, ils n'ont absolument pas le budget pour financer la rénovation des églises. Surtout que ça doit se faire continuellement, parce que plus on attend, plus les coûts vont devenir chers à un moment donné. Donc si une commune décide de faire des économies pour des raisons tout à fait légitimes, hein, peut-être pour construire une école ou rénover des routes, va faire des économies pour ne pas avoir à rénover son église pendant 5-10 ans, et bien peut-être que c'était le moment où il fallait, et demain, la rénovation sera beaucoup plus chère. Donc déjà, il y a ce gros problème de financement, et on a proposé des solutions aux députés Rassemblement National pour remédier à ce financement. Mais il y a un deuxième gros problème, et ça, j'ai vu que sur Twitter, quelqu'un t'avait répondu à l'annonce de cet entretien, et donc je vais lui répondre tout de suite, donc j'espère qu'il est présent, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'espère qu'il écoute bien. On a un deuxième problème, Mike, je vais te poser une petite question que j'avais déjà posée à Radio Courtoisie, donc si tu ne m'as pas écouté, eh bien, tu ne sauras peut-être pas la réponse, mais je te la pose. Il y a une zone en France, il y a un coin en France, où les églises rurales se portent un peu mieux que sur le reste du territoire. Est-ce que tu saurais deviner quel coin c'est ? On parle des églises rurales.
J'ai pas regardé Courtoisie, je te le dis sincèrement, parce que j'essaie de ne pas regarder les interviews des autres pour ne pas faire comme eux. J'imagine que tu devais être chez qui d'ailleurs, chez Courtoisie ce jour-là ?
J'étais à la matinale, donc chez Madame
Diagora. Chez Clémence, je la salue. Ouais. J'imagine, parce que moi je suis un anti-laïcité primaire, un anti-laïcat primaire, hein, un anti-loi laïcité, je le dis pas tout. Ce sont les gens le savent, j'imagine que c'est l'Alsace-Moselle du Concordat où ça se passe mieux qu'ailleurs.
Effectivement, donc c'est la question à 100 000, donc vous pouvez l'applaudir dans le fil de discussion. Oui, c'est l'Alsace-Moselle, et en fait, ça s'explique pour une raison simple, c'est que sous le régime concordataire, on a des églises qui appartiennent aux établissements publics du culte et des églises qui appartiennent aux communes. Et là, on va s'intéresser aux églises qui appartiennent aux communes pour avoir quelque chose de comparable. Pourquoi est-ce qu'en Alsace-Moselle, elle se porte un peu mieux? Je le sais grâce à la Sauvegarde de la Française, qui est une association qui justement aide à la rénovation des églises. Et ils disent, on n'a pas de demande des églises pour les églises rurales en Alsace-Moselle. Bon, du moins, on en a beaucoup moins. Et bien pourquoi? Ça s'explique simplement. C'est que si en Alsace-Moselle, une commune ne prévoit pas un budget pour la rénovation des églises, on peut demander à la Chambre régionale des comptes du Grand Est de la forcer à inscrire cette rénovation dans le budget. Je le dis plus simplement, en Alsace-Moselle, les communes ont l'obligation de faire les églises, leurs églises. Ça n'est pas le cas sur le reste du territoire. Sur le reste du territoire, les communes ont l'obligation uniquement s'il y a un risque direct, concret, pour les usagers. Mais il n'y a pas d'obligation d'entretenir les églises des communes sur le reste du territoire, sauf en Alsace-Moselle où il y a cette obligation. Donc voilà, on a deux problèmes, un problème de financement.
Mais lorsque, après la messe, on fait la quête, cet argent, il n'est pas utilisé, par exemple, pour la reconstruction, enfin pour les rénovations?
Non, il n'est pas utilisé pour les rénovations. En fait, il est utilisé pour le fonctionnement de la paroisse, tout simplement. Il faut l'éclairage, le chauffage. Enfin, il y a tout un tas de frais, en fait, et la quête va principalement à ça. Et puis après, il faut aussi rémunérer les curés. Hein. Il faut bien qu'ils vivent. Donc non, ça ne va pas à la rénovation des églises. Alors, il doit y avoir des dons qui sont faits à partir de là, s'il y a urgence, mais non. Et d'ailleurs, ça n'est pas à l'église de le faire. Ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est de nous dire mais oui mais c'est à l'église d'entretenir ces églises. En réalité la question elle doit pas se poser de ce point de vue là justement j'ai mon petit exemplaire de Maurice Barrès, la grande pitié des églises de France, imprimé par notre ami Jonathan Sturel d'ailleurs, donc à la délégation des
On le salue, il était venu quelques mois ici sur Géopolitique, Jonathan Sturel, évidemment qu'on salue.
Voilà, donc c'est ça. Bah, c'est lui qui m'a invité à venir à l'entretien d'ailleurs. Il m'a dit, fais la proposition. Eh bien, on s'aperçoit que déjà à ce moment-là, il y avait les mêmes objections. Donc c'est dans le chapitre, pour ceux qui connaissent ce livre, sinon procurez-le vous. Dans le chapitre où il parle à Monsieur Aristide Briand, Monsieur Aristide Briand lui dit mais que l'Église s'occupe de ses églises enfin. Et Maurice Barrès lui répond quelque chose, à mon sens, de tout à fait vrai. L'Église, elle est déjà chargée de s'occuper du salut des âmes des gens, en fait. Elle a déjà une mission plus importante. Alors, pour les non-croyants, ça peut sembler absurde, mais dans tous les cas, c'est le rôle de l'Église de s'intéresser aux faits religieux et pas aux faits matériels. L'Église, même si l'Église catholique, le bâtiment, a une dimension sacrée, s'il le désacralise, c'est pas grave. La question de la protection des églises de France, elle est pas, c'est pas une question religieuse. C'est pas une question de salut des âmes, c'est pas parce que vous avez aidé une église à tenir debout que vous allez aller au paradis. C'est une question matérielle et nationale, tout de suite, maintenant. Donc, c'est une question de patrimoine, c'est une question d'enracinement local. Donc, c'est à nous de payer et c'est à l'État de payer parce qu'il nous représente en tant que société, en tant que nation, de payer pour cette rénovation.
Oui, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, les églises sont de plus en plus vides. Peut-être qu'elles sont désuètes et pourquoi les rénover si elles n'accueillent plus personne?
Mais c'est, enfin, évidemment qu'il y a un problème de sécularisation, c'est le premier problème. Aujourd'hui, ils le disent dans le rapport du Sénat, je le répète, plus une église est fréquentée, mieux elle se porte. Ça, on est tous d'accord. Et en tant que moi, en tant que personne politique ou en président de Force Solidaire, ce n'est pas mon rôle de vous dire allez à la messe pour le bien des églises et ce n'est pas ce que je vais faire. Il y a un problème de sécularisation qui condamne les églises. Ça, c'est clair. Mais en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Souvent, quand on parle de l'Empire romain, je vais faire une petite digression, mais je vais revenir. Quand on parle de l'Empire romain, on discute pourquoi est-ce que l'Empire romain est tombé. C'est la grande discussion quand même, ça fait un millénaire qu'on en parle, enfin plus même, pourquoi l'Empire romain est tombé? Alors, on a tous appris que c'était les invasions barbares qui ont fait tomber l'Empire romain. Avec le temps, on relativise, on a appris à relativiser ces invasions barbares, à comprendre que ça n'était pas une horde de gueux qui sont venus faire tomber l'Empire. Certains d'entre eux étaient des mercenaires de l'Empire romain, ils se sont taillés un royaume, mais ils étaient à peu près soutenus par l'empereur qui avait de moins en moins de pouvoir. On a appris ça. Aujourd'hui, on apprend de plus en plus de choses et on vient à remettre en question le fait que l'Empire romain est tombé à cause des barbares. On apprend que, en fait, il y avait des problèmes économiques, il y a eu une décentralisation qui a été faite, qui a eu une perte de pouvoir de l'Empire. Bref, on apprend plein de causes. La dernière mode, c'est de dire qu'il y a eu un changement climatique. Bref, on se rend compte que souvent, on calque nos visions sur la contemporanéité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, bizarrement, on a commencé à dire que c'était de moins en moins la faute des barbares germaniques quand on a commencé à construire l'Union européenne, à s'allier avec l'Allemagne, qui, elle, dans son roman national, ne voulait absolument pas qu'on dise que ce soit à cause des Germains. Bref, parenthèse fermée. Mais pour qu'un empire romain, pour qu'un empire tombe du fait des invasions barbares, ce qui peut nous rappeler le phénomène migratoire. D'ailleurs, à chaque fois que je parle du sort des églises, on me dit « oui, et en plus, on construit des mosquées, oui, c'est vrai ». Mais il faut bien comprendre que pour que l'Empire romain soit colonisé, il faut qu'il soit avant tout colonisable. Donc avant, pourquoi il s'est effondré, c'est déjà parce qu'il y avait des causes. Et la France, c'est pareil. Vous avez des gens qui viennent, qui s'installent, qui construisent des mosquées et cette possibilité, elle est possible uniquement parce que la France est déjà fragile avant. Ce n'est pas que l'immigration qui fragilise la France, c'est la France qui était déjà moralement fragile avant qui a permis cette immigration. Et cette fragilité de la France, ce déclin de la France, cette décadence de la France, elle s'explique notamment par une perte de sens d'enracinement, qu'il soit enracinement national, local, ou un sentiment religieux et une transcendance. Et les églises, elles représentent ces deux aspects à la fois. Elles représentent à la fois une chute morale, une chute de transcendance religieuse et une chute de l'enracinement. Et donc oui, les églises, aujourd'hui, elles sont de moins en moins fréquentées. Mais si vous voulez relever la France, et je pense que c'est notre cas tous ici, il faut bien comprendre que c'est pas juste en foutant les Arabes dehors, comme beaucoup le disent, qu'on va relever la France, c'est faux. Parce que en foutant les Arabes dehors, tout ce que vous allez avoir, c'est une France qui sera toujours aussi matérialiste, toujours aussi économiquement déplorable, sans industrie, soumise à l'Union européenne, américanisée.
Surtout que ce n'est pas du fait de l'immigration que les gens ne vont plus ou ne croient plus. Voilà. C'est pas les Maghrébins. Il y en a parmi nous là, monsieur Abdelkader qui nous regarde hein, et qui salue les chrétiens. Et d'ailleurs, Abdelkader, un croyant lambda, qui nous dit entièrement d'accord avec toi, Raphaël. Et en effet, le fait culturel et cultuel, le fait qu'on l'ait perdu, ce n'est pas de leur faute. Et ça, il faut le dire.
Bien sûr. Et en fait, moi, d'ailleurs, je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui dit « Non, mais la réémigration est possible. » Oui, mais il n'y a pas de souci. Je suis contre l'immigration massive. Je suis pour une politique d'inversion des flux. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas juste en foutant les immigrants, les immigrés dehors que vous allez reconstruire la France, parce qu'il faut construire un projet, une transcendance, qu'elle soit nationale ou religieuse. Je suis pour les deux, personnellement, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la nation avant tout. Et donc, la question des églises, c'est de permettre, et Maurice Barrès l'explique bien, c'est avant tout une question d'éducation à la grandeur d'âme. C'est, je veux que tous les enfants de France, demain, quand ils se poseront des questions à 8 ans, 9 ans, 10 ans, sur le monde, la terre, et qu'est-ce que l'univers. Je veux qu'ils aient un repère à côté de chez eux, une église, qui leur apprend deux choses. Un, qu'il y a plus grand que nous, c'est la croix voilà, qui s'élève devant nous. Et deux, que des gens étaient là avant lui et ont créé ces bâtiments, ont construit ces bâtiments partout autour d'eux. Et c'est une question d'éducation nationale, c'est une question de transcendance nationale, ces églises. Et c'est pour ça que c'est si capital.
Mais regarde, tiens, il y a deux faits qui sont passés très récemment. Premier, sur BFM, Madame Roselyne Bachelot, qui a une émission sur BFM, a dit, voilà, nous avons construit beaucoup trop d'églises au 19e siècle, il faudrait pour la plupart les détruire. Bon, un. Deuxième chose, sur ce même BFM, il y a eu un sondage sur le complotisme, alors... Dans ce sondage sur le complotisme, on a mis est-ce que les gens croyaient dans la terre plate, dans les injections, j'ai failli dire le mot tabou, et est-ce qu'ils croyaient aussi dans une force supérieure qui aurait créé l'être humain. Ça veut dire que BFM mettait sur le même plan la religion et le Dieu, monothéiste, avec La terre plate et les injections. Comment tu as pris, toi, ces deux faits-là? Comment tu as senti, toi, en tant que catholique, j'imagine que tu es catholique, qu'une chaîne de télévision importante remette en cause le culte national?
Bon, déjà, pour Madame Roselyne Bachelot, oui, on a construit beaucoup d'églises au 19e siècle, et ça, je vais vous dire quelque chose, ça les insupporte. Ça les insupporte parce qu'ils pensaient, avec la Révolution, détruire l'Église, détruire le catholicisme, créer le culte de l'être suprême et de la raison. Et au 19e, qu'est-ce qu'on voit? On voit une résurgence du catholicisme. C'est pour ça qu'ils détestent ces églises. C'est pour ça qu'ils détestent le Sacré-Cœur et qu'il y a eu tant de polémiques récemment. Déjà, ils détestent ça. Et ça s'explique bien. Oui, bon, alors je suis catholique, mais j'ai eu un parcours religieux très voilà très intéressant, je pense, de ce côté-là, puisque j'ai fait beaucoup de revirements comme tout le monde, très intéressant et très banal, donc pas si intéressant que ça, mais très intéressant parce que très représentatif de notre époque. Je me suis détourné de la religion avant d'y revenir. Bref, je vais pas rentrer dans les détails là, mais la remise en question du culte, oui, qu'on peut qualifier de national, le catholicisme, puisqu'il a fondé un peu la France, moi, ça me surprend pas plus que ça. Et honnêtement, vu ce genre de choses, dont en général, je fais pas très attention, parce que c'est dans leur projet politique. En fait, ils détestent toute forme de transcendance et ils savent que derrière le catholicisme, il y a forcément la nation. Et derrière la nation, il y a toujours le catholicisme aussi. Les deux vont de pair. Mais j'aimerais revenir rapidement sur Madame Bachelot, sur ce qu'elle a dit. On entend souvent, oui, on a construit trop d'églises, et puis en plus, les églises néo-gothiques du 19e siècle, bon, bah, c'est pas super, quoi, par rapport aux autres églises qu'on a construites avant. C'est vrai que toutes les églises ne se valent pas architecturalement, historiquement, et je ne le nie pas, je suis pas un relativiste, je vais pas faire l'aveugle et vous dire que, sur un plan architectural, une église néo-gothique vaut la cathédrale d'Amiens. Je ne suis pas stupide. Et à cela, je réponds quelque chose de très simple. C'est qu'on ne pose pas la question de la protection des églises pour des questions d'architecture, d'histoire, et seulement de ce point de vue-là. On la pose pour des questions individuelles d'enracinement local. Je m'explique. J'ai moi-même, alors j'ai été baptisé dans une petite église en Bourgogne, une toute petite église rurale, mais j'ai vécu mon enfance dans la région parisienne et je fréquentais une paroisse où j'ai fait ma première communion d'ailleurs, une paroisse d'une église néo-gothique au demeurant tout à fait banale et qu'on peut retrouver un peu partout. Eh bien, sachez bien, et c'est ce que déjà disait Maurice Barrès, que cette église vaut dans mon cœur bien plus qu'une superbe église qu'on peut retrouver à Aix-en-Provence. Alors, j'ai rien contre les gens qui habitent à Aix-en-Provence et sans doute que j'adore leur église. Mais dans mon cœur, elle vaudra sans doute moins que l'église que j'ai fréquentée. Comme disait Maurice Barrès, peu m'importe que vous sauvegardiez la plus belle église de Toulouse si vous mettez à bas l'église de mon village. Quand on protège les églises de France, on s'intéresse à ce qu'elles représentent pour tous les gens qui habitent à côté. Et pour tout le monde, son église, c'est la sienne, c'est celle de son peuple, c'est celle de sa terre, c'est celle de sa ville. Et c'est ça qu'on défend, c'est ce sentiment d'enracinement local. On n'est pas là à faire, comme dit Maurice Barrès, l'automobiliste, à dire, bon, bah, moi, j'ai fait Paris-Marseille, j'ai croisé 12 villages. Dans les 12, il y en avait 8 qui avaient des très belles églises. Franchement, les 4 autres, je m'en fiche, on peut en garder que 8 sur les 12. En fait, on n'est pas là pour les touristes, on n'est pas là pour les conservateurs du patrimoine, on est là pour les Français. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est capital de sauvegarder toutes les églises. Et si demain il faut absolument en détruire une pour X ou Y raison, il y a d'autres solutions. Et je suis pas non plus quelqu'un qui suit d'autres solutions comme on en parlera sans doute, mais la réaffectation, par exemple, pour en faire une bibliothèque et tout, je suis pas complètement contre parce qu'il faut toujours privilégier la réutilisation, parce que demain, qui sait de quoi l'avenir sera fait, peut-être qu'il y aura un retour du catholicisme et il faudra l'utiliser comme il faudra la réutiliser, on aura déjà le bâtiment. Et il faut toujours préférer une réutilisation à une destruction. Mais je ne suis pas quelqu'un de figé, moi je suis aussi pour la construction de nouvelles églises. Si on a une qui est de néo-gothique pas terrible et qu'on veut en faire un grand projet pour l'améliorer, l'agrandir, la rendre plus belle, je suis ouvert et c'est ce que notre peuple a toujours fait en fait. Toutes les églises sont importantes d'un point de vue d'enracinement et toutes représentent soit un peuple qui les a construits, soit la continuité de l'esprit de ce peuple sur le temps long. Et c'est ça qui est important.
Et toi, tu le comptes. quand tu vois, par exemple, la destruction de l'église de Genest-Saint-Île en Mayenne, je vois très récemment,
Oui,
qu'est-ce que ça te
très très.
fait?
Évidemment, ça me fait mal. Et il y avait déjà le cas de l'église de la Baconnière aussi en Mayenne où ils ont annoncé sa destruction. J'ai contacté à plusieurs reprises la mairie sans succès. Il y a eu une petite manifestation qui a été organisée. Moi, évidemment, chaque église qui tombe, ça me fait mal. Mais je me dis que en plus, ça fera beaucoup plus vite. On a vu lors de ces manifestations des gens pleurer. C'est dire à quel point ces églises représentent quelque chose pour nous. Donc oui, ça me fait mal,
Mais
évidemment.
est-ce que alors les gens pleurent, certes, mais est-ce qu'ils sont prêts si le maire leur dit voilà, ok, d'accord, mais pour sauvegarder votre église, je suis obligé d'augmenter les impôts locaux de 15%. Est-ce que les gens sont prêts à ça aujourd'hui? Ça, c'est ma
Alors.
question.
Oui, alors écoutez, tous les gens ne sont pas prêts à ça parce qu'il y a des gens qui détestent les églises en France, hein, c'est certain. En revanche, je tiens à dire que il ne faut pas rejeter la faute sur ces gens qui pleurent, qui ne font rien, parce que la Fondation du patrimoine organise des collectes d'argent pour les monuments. Et sachez que pour les églises, ce sont les collectes qui reçoivent le plus d'argent systématiquement. En moyenne, ce sont les églises qui reçoivent le plus d'argent. C'est dire à quel point c'est important pour les gens, plus que les ponts, plus que les châteaux. Ce sont les églises qui ont le plus d'argent. Donc, le maire, dans tous les cas, je veux dire, pour une commune de 200 habitants, qui demande à ses 200 habitants de se cotiser pour financer l'église, ça ne fonctionnera pas forcément. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un financement plus global. Nous, on propose que ce soit le département qui s'en charge. Est-ce qu'il y a besoin de faire une hausse d'impôts? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a juste un choix de financement à faire. Et pour moi, les églises est un financement très important et ça s'inscrit dans un projet global qu'on propose avec Force Solidaire. Il y a des économies à faire à certains endroits. Il y a, on va pas reparler de l'immigration, mais il y a des économies à faire de ce côté-là, évidemment. Il y a
Oui,
des
mais
économies à
bon,
faire.
ok, mais bon, mais ça, je sais pas moi, la mairie de telle ou telle commune ou même de Paris n'y peut rien pour le coup sur l'immigration. Ça,
Oui.
c'est vraiment un truc de l'État, ça, c'est
Oui,
vraiment
bien
du
sûr.
réel.
Bien sûr. Mais en fait, c'est pour ça qu'on propose des solutions, nous, quand même, à appliquer tout de suite maintenant. Parce que ce n'est pas demain que Force Solidaire, va avoir la tête de l'État et mettre son projet global en marche. Donc, comme je l'ai dit, je cherche à développer des solutions concrètes aujourd'hui, maintenant. Et c'est pour ça que je suis allé à l'Assemblée nationale les,
Alors,
proposer aux députés de la Gauche.
on va en parler, mais là, ça m'intéresse pour le coup les solutions. Est-ce que, par exemple, l'argent du privé pourrait être une solution, comme le font les Anglo-Saxons ou je sais pas moi, les anciens étudiants qui ont bien gagné leur vie, ben, deviennent mécènes de leur université, tu vois, des choses
Oui,
comme ça.
il faut pas jeter la pierre à toute source de financement. Le privé suffira sans doute pas, parce que les entreprises ou les milliardaires n'ont pas envie de financer toutes les petites églises de village. On voit que pour Notre-Dame, ça a bien fonctionné. Ce sera pas le cas pour l'église Saint-Isle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais le privé est une source de financement, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, le mécénat fonctionne bien, justement, via les associations. Il s'agit maintenant d'en donner plus de visibilité pour ce qui est du privé. Mais pour moi, les solutions, tu me dis si tu veux que j'en parle,
Vas-y, vas-y, bah oui,
c'est
justement.
autre chose, c'est du législatif en fait. Alors, nous, on propose une série de solutions à mettre en œuvre, mais qui doivent être mises en œuvre ensemble pour que ça fonctionne, et je vous les fais très rapidement. 1. Mener un inventaire au niveau national des églises de France, on en parlait. J'ai demandé aux députés Rassemblement national et Républicains aussi,
Oui, parce
dans
que
ma
voilà,
tribune.
tu as été reçu par les députés, voilà, faut le dire.
Rassemblement national, uniquement. Et
Voilà.
justement, on y reviendra. J'avais demandé aux députés Rassemblement national de poser la question au gouvernement, quand est-ce que cet inventaire sera mené? Qu'est-ce qu'ils ont répondu le gouvernement? Ils ont répondu, ça n'est plus à nous de le faire. Depuis 2004, l'inventaire du patrimoine est à la charge des régions. La majorité ne sait pas lire un texte de loi. Sur la loi qui cite, au début, il y a marqué, sans préjudice des opérations faites au niveau national. Donc, ils ont encore la compétence. Donc, un, mener un inventaire au niveau national. Deux, confier au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, c'est des établissements publics qui sont au niveau départemental, confier à ces CAUE le soin de renouveler cet inventaire régulièrement pour voir comment vont ces églises, quel est leur état, comment elles sont utilisées. Ça a déjà été fait en Meurthe-et-Moselle, donc à côté de chez moi, et ça avait très bien fonctionné. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Pour ça, il y a un mode de financement à faire sur la taxe d'aménagement. Je ne vous le développe pas. Vous pouvez me voir sur Twitter. J'ai partagé déjà les solutions. Trois, une fois que ça s'est fait, On change le texte de loi du Code général des collectivités territoriales qui impose aux communes 20% de financement et on réduit cette part. Alors moi j'ai dit 5%, ça peut être 1%, 2%, 5% ça suffit. 4, on change la loi de 1905. Bon, alors là, ça va faire bondir les gens, mais on la change sur un petit détail. On oblige les communes à entretenir leurs églises systématiquement. Obligatoire, comme c'est le cas en Alsace-Moselle. 5, on oblige, en gros, le département à financer 40% minimum, ou 50%, moi j'ai mis 40% minimum, de la rénovation des églises sur demande des communes qui gardent la maîtrise d'ouvrage en accord avec la proposition du CAUE que j'ai évoquée tout à l'heure. Je sais que c'est un peu compliqué, mais au pire, vous regarderez. Et de ce fait, donc, le CAUE voit que l'église est en mauvais état, il envoie son rapport à la commune et au département. La commune voit, elle demande au département, vous avez reçu le rapport comme moi, j'ai besoin de tant d'argent, vous devez financer pour 40 à 50%. Et ensuite, rien qu'avec les associations Sauvegarde de la Française, Fondation du Patrimoine, les mécènes comme D'Artagnan, etc., ils auront le budget nécessaire pour assurer l'entretien des églises de France. Et pour ça, donc, il suffit juste que le département ait une dotation de l'État légèrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on a regardé le budget qui pouvait être fait à partir de là. Et c'est tout à fait possible, même avec le financement actuel. Voilà.
Donc là, tu as fait les propositions clés en main que tu as données à des députés qui, j'imagine, l'ont montré au gouvernement. Et le gouvernement, lui, bon, il met ça sur la table, quoi.
Alors, j'ai proposé ces solutions aux députés qui m'ont reçu. Donc, il y en a plusieurs qui étaient intéressés. J'ai concrètement discuté, surtout avec deux d'entre eux. J'ai discuté avec plus, mais physiquement, vraiment, pour un bon moment avec deux d'entre eux. Donc, Monsieur Cabrolier et Monsieur Lotio, députés Rassemblement National. Je leur ai donné toutes ces recommandations. Alors, eux, ils étaient d'accord avec certaines d'entre elles, moins avec d'autres, notamment sur le financement. Ils voulaient plutôt utiliser d'autres organismes. Leur solution était aussi tout à fait correcte. Moi, je leur ai donné celle qui me semblait meilleure, mais ils en ont proposé des très bonnes. Alors, je sais que le Rassemblement National prépare une proposition de loi à partir de là. Donc, ils n'ont pas encore montré au gouvernement concrètement. La seule chose qu'ils ont dit au gouvernement, c'est qu'ils ont fait la question au gouvernement que j'ai demandé pour demander un inventaire en précisant que l'argument que le gouvernement avait donné était mauvaise. Ça, ils l'ont fait. On n'a pas encore eu de réponse. Mais quand ce sera le cas, évidemment, ce sera sur mon Twitter. Pour l'instant, voilà, il y a une proposition de loi qui est en train d'être faite par le Rassemblement National. Je ne sais pas quelle partie de mes propositions vont être récupérées. On verra bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, toi, tu es un jeune, tu as 22 ans. Je veux dire, tu n'es pas, sans faire injure, tu ne viens pas du milieu parlementaire et tout. Pourtant, tu veux te bouger pour sauvegarder les églises. Et mine de rien, à la suite de ça, en préparant les bistons, j'ai vu que une centaine de députés se sont emparés de la question. Donc, tu as réussi, mine de rien, à faire bouger une centaine de députés sur cette question spécifique.
Alors, effectivement, donc, bon, j'ai 22 ans, je suis en master de sciences politiques. J'ai eu la chance d'avoir déjà un attrait pour les questions politiques et juridiques depuis tout jeune. Donc, j'ai été très, très bien formé et j'ai été très, très bien entouré très jeune. Et je me forme actuellement au concours de la haute fonction publique, ce qui me permet d'avoir beaucoup de connaissances de ce côté-là. Et je suis surtout très bien entouré. Ce qui m'a permis de préparer ce projet avec des juristes spécialisés dans le droit des collectivités territoriales, avec des gens très compétents sur le sujet. Et donc, effectivement, on a proposé un dossier, j'ai publié ma tribune sur l'incorrect, et en fait, tout de suite, les gens ont été intéressés, parce que les gens qui s'intéressent vraiment à la France, eh ben, ça les touche, forcément. Et les députés RN sont les premiers à m'avoir reçu, à avoir discuté au téléphone, j'en ai eu plusieurs d'entre eux au téléphone à un long moment, et ça les a touchés, ça les a intéressés, et ils ont vu que ce que je disais était intéressant parce que nous, chez Force Solidaire, quand on prépare quelque chose, on le bosse. Ça, c'est quand même quelque chose qui manque dans notre côté. Nous, on bosse. Voilà. Et on le fait, c'est très important pour nous. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais ceux qui s'engagent, ils bossent. Alors, la fameuse tribune des parlementaires, oui, alors au journal du dimanche, j'ai vu, pendant que j'étais en vacances, parce qu'il m'arrive quand même encore de prendre des vacances, même si ça devient de plus en plus rare, j'ai vu qu'il y avait 120-130 parlementaires, donc députés, sénateurs, députés européens, qui se sont mobilisés et qui ont fait une tribune au gouvernement pour sauvegarder les églises rurales. Génial. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de super pour la cause, c'est formidable. Et là, étrange, dans les signataires, aucun des parlementaires que j'ai eu au téléphone, que j'ai vu physiquement, à qui j'ai fait les propositions, aucun des parlementaires à qui j'ai parlé, enfin, j'ai parlé aussi aux assistants parlementaires, rien, aucun de ces noms-là. Alors que pourtant, ils étaient à fond dans le truc. Donc, je me dis, mais c'est bizarre, quoi. Donc, je regarde la liste des gens qui se sont engagés pour cette tribune. Et là, surprise, des députés, les Républicains, que j'ai contactés, mais qui ne m'ont jamais répondu. Chez les Républicains, il y en a qui m'ont répondu, mais c'est pas ceux qui étaient à l'initiative au début de cette tribune. Donc j'envoie un message aux députés Rassemblement National à qui je suis en contact et je leur dis, bah, écoutez, excusez-moi, est-ce que vous avez été contacté pour cette tribune? Absolument pas. Et bon, bah pour la cause, c'est génial. Ils ont fait une tribune au Journal du Dimanche. Moi, dans tous les cas, je suis très heureux de ce côté-là. Mais en fait, c'est probablement ma tribune chez l'Incorrect qui leur a donné envie de le faire. Je ne dis pas avoir le monopole de la question des églises, mais on a envoyé cette tribune à tous les députés.
Oui, mais t'as quand même remué le cocotier, si je puis dire.
Voilà, on a fait des choses, donc je sais qu'ils ont vu cette tribune. Et au lieu, comme les députés Rassemblement National l'ont fait, de me répondre pour qu'on leur donne bah, peut-être des propositions, des choses à faire, ils ont fait leur tribune de leur côté pour l'adresser au gouvernement. Ça, moi, ça ne me dérange pas qu'on m'envoie pas de message, j'ai pas une grosse tête comme ça. Mais qu'il n'ait pas contacté les députés Rassemblement National qui, eux, se sont engagés, qui font une proposition de loi, qui m'ont reçu à l'Assemblée, que j'ai eu au téléphone pendant des heures pour certains d'entre eux, pour préparer les choses et travailler, que eux n'aient pas été contactés, tout simplement parce qu'ils sont du Rassemblement National et que le Rassemblement National, ce sont des fascistes pour eux, ça me met hors de moi. Parce que la question des églises de France, c'est une question nationale qui ne mérite aucun traitement sectaire comme ça. Et c'est un manque de respect pour des parlementaires qui font leur travail et qui se sont engagés les premiers. Les députés qui ont fait, les parlementaires qui ont fait cette tribune, merci à eux. Beaucoup sont pas forcément au courant de ce que j'ai fait parce qu'ils peuvent pas tout voir. Mais ceux qui ont vu le Rassemblement National et qui font cette manœuvre, non pas forcément pour les églises, mais pour les griller, parce qu'ils se sont dit, il faut pas que le Rassemblement National prenne les premiers cette question-là qui touche, et qui font leur tribune, et qui sans doute peut-être ne feront rien derrière, ils ont envoyé leur tribune, ils ont fait le travail, ça n'est pas correct. Voilà.
Ouais, bon, c'est vrai, t'as raison, c'est pas correct. Malgré tout, le sujet est sur la table,
oui.
Et je doute que si tu n'avais pas fait cette tribune, le sujet serait venu, serait venu comme ça, parce que connaissant un peu LR, je ne crois pas que ça soit les églises soient leur priorité, hein, loin de là. Au moins, voilà une action de fait, ça c'est très bien, et ça prouve aussi que si des jeunes ont envie de faire des choses, ils le peuvent. Que ces jeunes sortent de leur chambre, qu'ils sortent de leur jeu là, vidéo en ligne, et qu'ils fassent des choses, et ça c'est important, c'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre en avant ton action. Mais il y a aussi une autre chose, moi, qui me désole chez les jeunes, c'est les idéologies qui sont pour moi néfastes, celles du paganisme, qui sont majoritaires, celles des euro-identitaires, aussi les idéologies raciales. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, on va conclure rapidement le chapitre des églises et puis je vais te répondre.
Vas-y.
Oui, je tiens vraiment à le dire, cette tribune est salutaire. Je l'ai remercié sur Twitter, ça a été mon premier mouvement, parce que même si ça n'a pas été fait de la bonne manière à mon sens, la question est posée. Le gouvernement l'a forcément vu, là, il n'y a plus de doute, quoi. Avant, on pouvait se dire non, mais ils n'ont pas forcément vu. Là, c'est bon, c'est dit. Stéphane Bern en parle. Monsieur Macron le connaît quand même. 130 parlementaires le publient dans le Journal du Dimanche. Une proposition de loi est en cours par le RN. Maintenant, c'est vu, c'est sûr, c'est à l'agenda. Et il faut continuer d'en parler. Donc ça, déjà, voilà. C'est
mission réussie. Voilà.
Mission réussie de ce côté-là. Nous, on en est très contents. Deuxièmement, vraiment, Maurice Barrès, La Grande Pitié des Églises de France, je vous invite à le lire parce qu'on est malheureusement dans une grande boucle sur cette question. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, ça a déjà été dit, en fait. Et tout ce qu'on nous oppose, ça a déjà été dit aussi. Et à chaque fois, ils ont été battus par notamment Maurice Barrès. Donc, je vous invite à le lire. Et combattez pour les églises, comme je dis, sauver les églises, c'est sauver la France. Et la France est en décadence, en déclin. C'est un déclin qui s'apprécie sur le temps long. Malheureusement, sachez bien que cette décadence, ça n'est pas une chute unique sur un instant T. Ça n'est pas un incendie comme Notre-Dame. C'est un effritement lent à travers les siècles, à travers les années. C'est la même chose pour nos églises. C'est une érosion lente qu'on ne voit pas à l'œil, mais qui arrive forcément. Donc, combattre pour les églises, c'est combattre contre ce déclin. Voilà. Donc, maintenant, deuxième chapitre, j'imagine, on va parler un peu de,
voilà,
de,
ce, on va
tu,
parler...
de ce que tu as évoqué.
Il faut se dire, c'est les, moi, je le vois hein, sur les réseaux, je vois que les moins de 25 ans sont pris en main par ces identitaires, par les paganistes. Ils tournent le dos à la religion, au monothéisme, parce que pour eux, le Christ est un bédouin, sémite, que sais-je. Et ce n'est pas pour eux une religion, allez, de blancs ou d'européens. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par exemple, si un jeune vient te voir et te dit « Oui, mais t'es très gentil, Raphaël, mais moi, je préfère Thor, Zeus, je ne sais pas quoi, parce que ça, c'est l'Europe et pas le Christ. »
Bon, alors, heureusement, personne ne vient me voir comme ça parce que, petite pique pour commencer, mais ces gens, ils existent sur Twitter et Facebook, mais dans la vraie vie, on ne les voit pas, quoi. À la limite, ils rasent les murs, mais voilà, on les voit pas. Et s'ils existent, ben, venez discuter, moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. On les voit que sur Internet. Maintenant, oui, il y a un vrai problème avec les euro-identitaires. Et ça, j'en parle souvent, et il faut vraiment le dire. Moi, je me suis souverainiste et nationaliste. Et aujourd'hui, ma ligne, elle est prise en étau, qui est ma ligne, à mon sens, la vraie et la bonne ligne, la ligne nationaliste, hein, elle est prise en étau, très fort, très, de plus en plus que fort, entre d'un côté les souverainistes de gauche qui nous disent qu'il faut lutter contre l'Union européenne juste parce que c'est le libéralisme et qu'il faut instaurer un communisme d'État, mais si demain l'Union européenne c'était l'URSS, ça leur posera aucun problème. Donc d'un côté on a eux, c'est les souverainistes de gauche, ils sont très sympathiques au demeurant sur certains aspects, mais ce sont des adversaires. De l'autre côté, on a les euro-identitaires qui nous disent ben, il faut une Europe unie pour foutre les Arabes dehors, mais qui n'en ont rien à faire de la France de leur côté. Eux aussi, sur certains aspects, sont sympathiques, mais ce sont des adversaires. Donc nous, on est pris en étau, et les euro-identitaires nous prennent pour des souverainistes de gauche, les souverainistes de gauche nous prennent pour des euro-identitaires, alors que notre ligne, la ligne nationaliste, c'est la ligne naturelle pour la France. Et on a un certain problème, c'est sûr, et ces euro-identitaires, ils viennent de ce qu'on appelle bah, le mouvement de la nouvelle droite, hein, je vais pas te l'apprendre, qui a monté en puissance à la fin du XXe, qui ensuite...
Bon, a largement... De Benoît et compagnie, quoi.
De Benoît et compagnie, qui a largement diminué, qui a complètement chuté, on les a plus entendus, enfin je veux dire dans le grand public, et qui aujourd'hui reviennent à la mode, et ils utilisent une stratégie, c'est un peu nos trotskistes de droite, un peu, c'est-à-dire qu'ils font de l'entrisme dans les mouvements politiques, chez Reconquête, chez Rassemblement National, ils font de l'entrisme aussi par les influenceurs sur YouTube, et ils font croire aux petits nationalistes en herbe, c'est-à-dire des gens qui instinctivement sont de notre camp parce qu'ils aiment le drapeau, ils aiment la France, ils aiment leur histoire, ils aiment la culture, le patrimoine, vivre entre eux, vivre entre Français. Et on leur dit des choses qui sont vraies. On leur dit, il y a trop d'immigration, il y a un problème d'économie, il y a un problème d'industrie, il y a un problème juridique, il y a un problème, voilà, l'Union européenne, ça n'est pas bien. Voilà, ils disent tout ça. Ils parlent de, je sais pas, de féminisme, enfin, de tout un tas de sujets, effectivement, qui sont très importants. Et derrière, ils entraînent des gens qui instinctivement seraient de notre camp pour leur dire le problème, en fait, c'est que on n'est pas unis en tant qu'Européens, il faut se sentir européen, et donc si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous êtes dans l'autre camp. Et il y a plein de petits nationalistes, pas forcément très formés, qui du coup se retrouvent séduits par ce côté-là. Et pourquoi ils se retrouvent séduits? C'est parce que, un, ils ne sont pas formés, deux, ils sont déracinés, parce qu'il ne faut pas le croire, hein, nous tous, on est déracinés à l'origine, on est dans une dynamique de réenracinement, parce que nos évidences ont été remises en question. Et trois, eh ben, ils ont été déchristianisés. Ils ont perdu le sens de la transcendance. Donc, ils le retrouvent là où c'est le plus facile. Et comme ils sont américanisés pour la plupart, et encore une fois, je ne jette pas la pierre, c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Eh bien, oui, il bah, y a le film 300, c'était très bien. Les héros grecs, ça fait plaisir, ils sont musclés. Et donc, instinctivement, bah, ils se jettent dans les bras de ces influenceurs qui leur promettent un avenir entre blancs européens en leur disant que bah, de toute façon, la France, c'est trop tard et que ce qui compte, c'est la civilisation et c'est la couleur de peau. Voilà.
Oui, mais tiens, on va parler de ça. On va parler de musclés et tout, mais bon. Bon, à part Julien Rogy qui est le beau gosse du truc. Tout le reste, bon, ils sont pas très musclés, ils sont pas très beaux. Même pour la plupart, Ils sont très mat de peau. Tu trouves pas ça bizarre quand même un peu?
À qui tu penses?
Ben, je sais pas moi, Daniel, Papacito. Alors je sais pas si Papacito fait partie du truc, j'en sais rien. Enfin, je sais
Pour
pas,
moi,
tu trouves.
Papacito fait pas partie du truc, hein, honnêtement. Il s'est laissé entraîner un peu à un moment. Je me rappelle d'une interview qui m'avait un petit peu choqué, où il disait oui, il faudrait revenir dans le passé pour mettre en place la monarchie universelle, aider Charles Quint contre François Ier et tout. Mais et tout ça, il était dans la blague, hein, il était dans l'humour. Mais de son côté, quand on est monarchiste et traditionnaliste, on ne peut pas se permettre de friter avec les identités. Donc je pense vraiment pas que Papacito soit de ce côté-là. Je pense qu'il lutte contre, et
Bon, alors
je
je vais
pense que c'est
prendre un
un mauvais
autre.
plaisant.
Tiens, j'ai fait un débat dernièrement avec Nicolas Faure. Tiens, on va faire un peu de drama. Tiens, c'est marrant le drama. Nicolas Faure, bon, il s'appelle Faure. Il a un nom à consonance française. Bon, il n'a pas le faciès d'un vrai français entre nous, tu vois. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, bon, qui se la jouent à rien, qui n'en sont pas physiquement. Donne ses leçons, ça. Je trouve ça assez marrant.
Bah, il y a les deux, hein, quand même. Hein. Il y a les deux, ça va des deux côtés, mais oui, c'est possible. Alors moi, bon, j'ai la chance d'avoir des ancêtres qui ont fait un énorme travail de généalogie. Donc avant que les euro-identitaires m'attaquent, je le réponds. Voilà, j'ai ma généalogie complète sur de très nombreuses générations des deux côtés. Ici, c'est 100% français, 100% saucisson et steak charal, produit en France. Alors c'est un peu de partout en France, c'est Bourgogne, Limousin, Normandie, Lorraine aussi, j'ai un peu d'Albi, mais tout est en France, voilà, de A à Z. Donc déjà, on ne pourra pas m'attaquer de ce côté-là, parce que je sais qu'ils aiment bien attaquer sur les origines des gens, en appelant par exemple les immigrés super patriotes et tout, enfin bref, donc ils attaquent de ce côté-là. Donc sachez qu'ici, vous avez 100% français. Alors... Ce qui n'est pas, évidemment, je ne dis pas qu'il faut avoir que des Français dans son arbre généalogique pour être français, ça n'est pas ce que je dis, bien sûr. Mais c'est pour pas être attaqué dessus. Bon, oui, effectivement, ils n'ont peut-être pas le faciès français par excellence. Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'Espagne et qui était nationaliste français. Et puis, il s'est beaucoup perdu dans des questions, justement, d'origine, de sang, de pureté du sang, ce genre de choses. Et quand il s'est rendu compte qu'il était espagnol et donc qu'il pouvait peut-être pas tenir ce discours en étant, voilà, en se disant nationaliste français, mais pour la pureté du sang français, et ben, il a peut-être pas tenu ça. Et instinctivement, il s'est dit, bah, voilà, je vais embrasser quelque chose de plus large, le sang européen ou que sais-je.
C'est ça, je pense que Conversano, qui s'est fait. Il y a une vidéo comme ça qui est drôle sur Conversano où il est à Moscou et tu as des Maghrébins qui lui disent ah, Salam alaikum, mon frère, parce qu'ils pensent que c'est un Maghrébin comme eux. Est-ce que peut-être que y a une forme de, comment dire, de complexe là-dessus, du faciès, et ils se disent bon, bah, du coup, j'élargis à l'européanité, à la race, etc.
Il y a possiblement de ça. Très franchement, il y a possiblement de ça. Après, je vais pas me permettre de psychanalyser comme ça. C'est possible. Voilà, c'est possible qu'il y a quelque chose de ce point de vue-là. Mais je pense que le mal, il est plus profond, honnêtement, que juste celui de l'individu. Je pense qu'il faut vraiment chercher à comprendre d'où est-ce que ça vient profondément chez les gens. Et je pense que ça vient d'un déracinement qui est très fort. Et je te l'expliquais déjà il y a un an, sur ça, j'ai pas changé. Je pense que ça part d'un déracinement très fort qui fait que les gens se rattachent à ce qu'ils voient concrètement. Et comme l'identité française, c'est pas quelque chose de perceptible matériellement tout de suite pour quelqu'un qui est déraciné, c'est quelque chose, il faut s'élever intellectuellement. Et ben on se rattache à ce qu'on voit tout de suite. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Voilà. Et ben on voit que nous, on est blanc. Et que les gens qui sont fatigants dehors, eh ben ils sont pas blancs. Voilà, je fais pas de généralité, hein, c'est le discours à peu près. Et donc, bah, on se rattache à ce qu'on a et à ce qu'on voit. Et en plus, ça part aussi d'une certaine réalité, c'est-à-dire que, alors moi, je nie, là, je le dis là maintenant, je nie l'existence d'une civilisation européenne. J'en fais un travail que je vais bientôt publier sur notre chaîne YouTube et on va en parler sur Twitter. Je nie l'existence d'une civilisation européenne parce que je crois qu'il existe des civilisations. Je ne nie pas le concept de civilisation, qui est, on va dire, un ensemble culturel, un cadre philosophique et spirituel qui permet l'existence des cultures en son sein. Je dis que la France est dans une civilisation qui est occidentale, mais pas européenne. Parce que sur l'Europe, il y a trois civilisations qui cohabitent. La civilisation byzantine, la civilisation russe et la civilisation occidentale. Et donc, il y a une réalité civilisationnelle où les gens se disent, bah oui, mais je me sens mieux en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne que je me sens au Mali. Et ils pensent qu'ils ont démontré quelque chose de fou. Oui, bah, il y a des proximités culturelles, il y a des civilisations, c'est formidable. Mais l'Occident, et non pas l'Europe, s'est constitué sur quelque chose de très important. C'est sa diversité. J'ai lu beaucoup de livres récemment et qui posent la question pourquoi est-ce que, à partir du XVIIe siècle, même certains disent plus tôt, est-ce que c'est l'Occident qui a fait un énorme essor par rapport au monde chinois, par exemple, ou au monde indien, qui était en avance sur nous au Moyen Âge, par exemple? Ben, ça s'explique justement par le fait que, contrairement à l'islam, contrairement à la Chine, contrairement à l'Inde, en Occident, même s'il y avait un noyau national qui était la France et l'Angleterre au début, ce noyau était dès le début double, puis triple avec l'Allemagne, quadruple avec l'Espagne, et donc il y a eu compétition entre ces nations, et c'est ce qui a permis l'émergence de l'Occident. Donc les euro-identitaires qui aujourd'hui nous disent on doit créer un super ensemble européen pour lutter contre les temps, contre les difficultés, alors en plus ils agrègent l'Orient byzantin qui n'est pas notre espace civilisationnel, ils oublient que ce qui constitue leur identité civilisationnelle, ce n'est pas d'être occidental, c'est d'être français. Et c'est parce qu'on était français et pas anglais qu'on s'est développé autant et que les Anglais se sont développés autant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre.
Mais tu sais, j'ai remarqué, pour le coup, sur le débat que j'ai fait la semaine dernière, qu'en réalité, ces identitaires étaient pas très transgressifs. Et qu'en réalité, ils marchaient sur les pas du, entre guillemets, mainstream. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont, entre guillemets, transgressifs sur la question de l'immigration. Mais bon, ça, chez les droitards, c'est quasiment politiquement correct. Mais sur tout le reste, sur les questions, tiens, par exemple sur les questions de Pierre Palmade, moi je vois beaucoup de ces gens soutenir quasiment Pierre Palmade. Bon, alors pourquoi ils soutiennent? Est-ce que parce que les victimes sont pas turcs, mais je crois kurdes? Bon, c'est possible aussi, voilà. Bon, mais Nicolas Faure m'a dit presque, il m'a presque avoué qu'en réalité, ce que lui voulait, c'est d'être adoubé par les élites et le mainstream pour, grosso modo, avoir son petit rond de serviette sur CNews. En fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas plus, hein. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi?
Moi, enfin, je veux dire, je recherche aussi à être adoubé par le système. Alors, on ne parle pas du même système quand je dis ça. Je recherche effectivement un jour à ce que mes idées soient institutionnalisées et donc deviennent le système. Là est la petite nuance. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'idée européenne, qu'elle soit défendue par les euro-identitaires ou par les mondialistes, fondamentalement, c'est la même. C'est des gens qui ont une haine de la nation et qui ont un projet impérial, que ce soit un projet impérial fondé sur une race blanche ou fondé sur les droits de l'homme, fondamentalement, c'est pour ça que ça revient un petit peu au même. Dans tous les cas, comme c'est un combat qui est là pour déstabiliser la nation, la patrie et le peuple français, ce sera soutenu. Et eux n'ont effectivement qu'un seul combat. Et quand on écoute, alors je vais me permettre, voilà, un petit clash, mais
Vas-y, vas-y.
Quand on écoute une Thaïs d'Escuffon, par exemple, en dehors de la question migratoire, qui est intéressante, parce que c'est une question fondamentale, en dehors de la question migratoire, elle n'a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas formée. Et je sais qu'il y a des gens qui lui ont proposé de la former intellectuellement et de lui montrer les choses. Je ne vais pas en dire trop, mais c'est quelque chose que je sais. Eh bien, elle a refusé parce qu'elle avait déjà toute la gloire nécessaire en parlant seulement de l'immigration. Comme tu l'as dit, c'est un politiquement correct de la droite. Je parle de l'immigration, mais ça ne suffit pas. Parce que, comme je l'ai dit, l'immigration, c'est qu'un symptôme d'une décadence généralisée. Et il faut s'attaquer à ce côté-là. Et ce n'est pas avec les délires néo-païens qu'on va créer quelque chose de plus
Ben
grand.
justement, tiens, en allant sur Thaïs d'Escuffon, d'ailleurs, je ne sais même pas si elle a fini ses études, je crois qu'elle vient de
Non, je
Toulouse
sais pas.
Mirail. Bon, moi je suis un ancien syndicat étudiant à l'Uni, bon, je connais un peu Toulouse Mirail, j'ai fait une élection là-bas, je veux dire, je ne crois pas qu'elle sorte là-bas des futures élites de ce pays, hein, je je peux vous le dire. Cette fille n'a jamais travaillé, n'a jamais vraiment milité. Elle demande des dons sur YouTube. Bon, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Lorsque elle critique, par exemple, la diversité patriote. Toi, est-ce que tu crois justement cette diversité patriote à des jeunes d'origine africaine ou maghrébine qui aiment la France et qui pourraient être assimilés?
Moi, j'ai une vision de l'assimilation qu'il ne faut pas caricaturer. La phrase on n'assimile pas des peuples, on assimile des individus, je la fais mienne totalement. Il y a un auteur que je vous recommande qui s'appelle Vincent Coussodière qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'assimilation, que j'invite. J'invite tout le monde à le lire. L'assimilation, elle n'existe que d'un point de vue individuel et de manière très élitiste. Donc, c'est à la marge. On assimile des gens à la marge. Aujourd'hui, on n'assimilera jamais les immigrés qu'on a sur le territoire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut chercher à en expulser un certain nombre, notamment les délinquants, etc. Mais oui, à la marge, il peut y avoir des gens qui sont africains et qui sont nationalistes, et sur le temps long, ils se fondront dans la masse.
Et par exemple, moi j'ai reçu, par exemple, Stella Kamga, qui est camerounaise, qui est née au Cameroun, qui est venue, je crois, 18-19 ans en France, qui est, pour moi, une patriote sincère, et dont Thaïs Descuffon a fait une critique très dure en disant « Non, pour moi, Stella Kamga, je ne la fais pas, elle n'est pas une compatriote, je ne crois pas dans la sincérité de son amour de la patrie. Est-ce que toi, tu es sur cette ligne-là ou pas ?
Déjà, moi, je mets en doute l'amour de la patrie de Thaïs Descuffon, qui, dans sa vidéo sur l'Europe, a dit que le patriotisme devait dépasser le cadre hexagonal. C'est l'inverse strict de la patrie. La patrie, c'est la terre des pères. Et à ce que je sache, mes pères se sont toujours battus contre les gens qu'elle veut assimiler et amalgamer à mon peuple. Pour ce qui est du cas de Stella Kamga, je l'ai rencontrée une fois. J'avoue ne pas connaître spécialement ce qu'elle fait, donc je ne me prononcerai pas sur son cas.
J'ai pris son cas.
Oui.
Voilà. Mais disons que tu as une autre personne que tu pourrais connaître. Je
sais pas. Mais oui, par exemple, ça marche pas trop parce qu'il vient de La Réunion, mais puisque je sais qu'ils sont quand même dans toutes ces délires de couleur de peau, le Greg Toussaint, par exemple,
voilà,
oui, je le crois parfaitement sincère. Il est lui aussi, je pense, à l'origine déraciné, américanisé, puisqu'avant il était dans Marvel, je sais pas quoi. Et il a travaillé sur un réenracinement en apprenant l'histoire de France, en aimant son pays. Sa traversée de la France, je le crois tout à fait sincère. Mais il faut être clair, voilà, c'est à la marge. Ce sont des gens qu'il faut voir à la marge, on assimile à la marge. Mais cette marge existe, voilà. Et donc il faut tout à fait les accepter. Il y a aucun problème de ce point de vue-là. Et je crois en la démarche.
Thaïs Descuffon, elle dit, ça n'existe pas.
Mais c'est stupide. Elle va me dire oui, mais ça compte pas parce que c'est un blanc, parce que c'est un Européen. Mais dans mon logiciel, en tout cas, ça fonctionne. On a des grands hommes de France qui viennent d'autres pays. Je vais pas reprendre la phrase de Jean-Marie Le Pen. Bon, je dis ça avant de la reprendre, mais un immigré, si c'est Léonard de Vinci, moi, ça me va tout à fait. Alors, elle me dira, oui, c'est un Italien, tout ça, mais parce que, évidemment, que à la Renaissance, avoir un immigré de Chine ou d'Arabie Saoudite, c'était forcément plus compliqué. Un étranger ou une personne d'origine étrangère, d'une ethnie différente, qui vient en France, qui s'assimile, c'est possible, j'y crois. C'est rare et aujourd'hui on a le rêve de croire que ça va être majoritaire, mais c'est tout à fait possible. Et donc à ce compte-là, je suis quelqu'un d'assez essentialiste quand même. Je crois à un certain déterminisme de la nature pour beaucoup de choses, mais à la marge, c'est tout à fait possible d'avoir ces gens qui se battent vraiment parce qu'ils se sont réenracinés. Et il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, pas tous, certains ont eu la chance, mais moi le premier, j'ai été déraciné avant de me réenraciner.
Comment tu as été déraciné ?
Comment j'ai été déraciné ? C'est malheureusement classique en fait. C'est-à-dire que j'ai été éduqué par des parents vraiment. Enfin, moi, j'ai eu toute la chance du monde de ce côté-là, avec beaucoup de culture, beaucoup de chance, mais qui ne m'ont pas appris plus que ça à aimer mon pays, mais qui l'ont fait dans un certain respect de mon pays, et je leur cracherai jamais dessus. J'ai eu des parents vraiment exceptionnels. L'école m'a pas appris spécialement à aimer mon pays, au contraire, il y a eu plutôt un apprentissage sur le fait que l'Union européenne c'était génial et que la France, bon, c'était pas terrible. On apprend tout le roman national révolutionnaire, mais on fustige absolument tout le reste du roman national. Ensuite, j'ai été éduqué par. Alors moi, j'ai toujours beaucoup lu des essais et des livres, mais derrière, j'ai quand même été influencé par les films américains et les mangas japonais. Sans jeter la pierre, tout le monde a le droit à des divertissements, bien sûr. Ensuite, sur YouTube, j'ai suivi des influenceurs quand j'étais au collège qui étaient plutôt engagés à gauche. Donc, je me suis engagé à gauche, un côté un peu internationaliste et tout. Et puis, en seconde, je me suis rendu compte que mon combat était faux. J'ai eu beaucoup de discussions, j'ai lu encore plus qu'avant.
Comment tu t'es rendu compte? Quel a été le déclencheur?
Alors, le déclencheur, il y a eu deux déclencheurs. Le premier déclencheur, c'était que j'étais dans un collège privé. Moi, j'ai fait primaire publique et lycée public, mais j'étais dans un collège privé avec des gens tous plus riches que moi. Et d'ailleurs, je suis parti du collège parce que pour des raisons financières. Et dans ce collège privé, j'ai rencontré une jeune fille, je ne citerai pas son nom, qui était catholique. Et un jour, on était en permanence. Alors, elle s'en souvient sans doute pas, hein, de cette discussion, parce qu'on a eu d'autres discussions, mais moi, celle-ci m'a marqué. On était en permanence et on a discuté du sujet de l'avortement. Et j'ai sorti, je pense, toute la doxa que je pouvais à l'époque. Et elle s'est défendue comme elle a pu, avec des arguments qui étaient justes. Mais sans me jeter des fleurs, j'étais à l'époque, et je le suis encore dans un débat, là c'est une discussion, mais dans un débat, j'ai des qualités rhétoriques. Et sur le coup, je l'ai vraiment, je pense, assez éliminé dans le cadre du débat, parce que à force de sophisme, j'ai réussi à m'en sortir. Et après cette discussion, j'ai eu un sentiment de malaise, de me dire, finalement, est-ce que mes réponses étaient si bonnes? Sur le coup, j'ai vu que je lui avais cloué le bec, mais elle a dit des choses quand même qui m'ont marqué. Peut-être que c'est ses parents qui parlaient à travers elle, mais en tout cas, il y avait des choses vraies. Mais bon, c'est passé. Puis arrivé au lycée, j'ai rencontré un autre garçon avec qui je ne suis malheureusement plus en contact, et on avait pareil des débats très, très mouvementés, et moi je lui sortais toute la doxa encore, et lui il m'apportait des choses un peu plus concrètes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ce qu'il me disait, c'était pas si intelligent que ça, mais pour l'époque, c'était vraiment, je pense que c'était quelqu'un de très brillant, et je pense qu'il est toujours aussi brillant, mais très dans ses études, je pense aussi. Et donc on avait des débats, et les gens nous écoutaient, et les gens en général nous écoutaient, et me donnaient toujours raison. Ils me disaient que ce que je faisais, c'était trop bien, je clouais le bec aux fachos, c'était exceptionnel, j'étais un artiste du débat, et j'avais plein d'applaudissements et j'en étais très fier. Mais j'ai réussi à avoir une certaine honnêteté d'esprit, et le soir, j'avais un petit cahier de débat, et je réécrivais ce qui me disait dedans, et là, j'essayais d'y répondre sans user d'artifice, seulement en répondant concrètement, vraiment sur les faits. Et donc, je faisais mes recherches sur Internet en même temps, je lisais, j'essayais d'y répondre, et là, j'y arrive pas. On parlait, je ne sais plus exactement, mais je me rappelle que c'était une discussion sur l'islam et sur le voile. Et là, je n'arrive pas à répondre à ces arguments. Je me rends compte que je bloque. Et donc, à ce moment-là, je reviens à ce que j'étais quand j'étais en primaire. J'en ai pas parlé, mais en primaire, instinctivement, quand j'étais enfant, j'avais un amour du pays très fort. Je me rappelle que le soir, j'allais sur Internet et je tapais les classements mondiaux, PIB, tout ça. Et je voyais la France en haut et je me disais, ah, faut que ça monte. Je cherchais Jeanne d'Arc et tout. Je lisais toute sa page Wikipédia quand j'ai eu Internet. Enfin, voilà. Et c'est dû à mon grand-père qui, lui, est un nationaliste qui m'a d'ailleurs beaucoup éduqué ensuite quand j'ai voulu revenir vers mon camp d'origine. J'ai beaucoup suivi les traces de mon grand-père de ce côté-là. Et donc, à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de toutes ces erreurs, j'ai recommencé à lire, j'ai recommencé à discuter des auteurs que je connaissais quand j'étais au collège, mais que j'étais passé à côté. Donc, j'ai relu Maurice Barrès, notamment. Et là, ça m'a fait un choc, en fait. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait appris au collège, je me rappelle qu'en troisième, il y avait un tableau qu'il fallait faire. Je ne sais plus si c'est en troisième, mais je crois sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait un tableau avec marqué personnes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, personnes qui ont perdu. Et il fallait mettre la France dans perdu la Seconde Guerre mondiale systématiquement, parce que la France, c'était Pétain uniquement et qu'il n'y avait rien d'autre. Et on nous culpabilisait systématiquement. Et là, je me suis rendu compte de toutes ces erreurs. Et je me suis réenraciné parce que j'ai réappris l'histoire que j'ai eu la chance de toujours connaître. Mais je me suis replongé dedans et je me suis rendu compte qu'effectivement, comme par hasard, tous mes amis même si j'étais en contact avec toutes les populations, tous mes amis étaient culturellement plutôt proches de moi, que je me sentais mieux en France, que je me sentais une filiation avec des auteurs français, que quand je les lisais, je me disais, c'est des choses précisément auxquelles j'ai pensé aujourd'hui, et quand je les lis, j'ai précisément leur psychologie, et quand je lis des personnes étrangères, j'ai pas la même chose. Et j'ai eu la chance, parce que, encore une fois, je viens d'un milieu assez aisé de ce côté-là, de faire pas mal d'échanges étrangers, notamment en Europe, et de me rendre compte que ces gens avaient des mentalités, des cultures complètement différentes. Récemment, je suis parti en Irlande, il y a 3 ans, 2 ans et demi, pour un stage Erasmus. Je suis parti en Irlande et on était dans une coloc à 12. Dans ces 12 personnes, en fait, on était 3 colocs de 4, mais bref, on était 12. Et on se faisait souvent des petites soirées ensemble. Et dans ces 12 personnes, on était 2 Français. On était 2 Français. Il y avait moi, qui était déjà avec donc, Force Solidaire, même si on n'était pas lancé officiellement, mais qui était déjà comme je le suis aujourd'hui. Et il y avait un autre garçon qui habitait à Strasbourg et qui était d'extrême-gauche, à mon opposé total. Je me levais à 7h le matin pour aller faire un peu de sport et commencer à travailler. Il se réveillait à 13h. On se croisait que pour déjeuner. Il ne lisait rien, il jouait toujours aux jeux vidéo. Même s'il était en master de lettres, et pourtant, je ne l'ai jamais vu lire, je crois. Et alors que moi, je lisais beaucoup, je jouais très peu aux jeux vidéo à ce moment-là. Bref, tout nous opposait. Et en termes d'individus, d'amicalité, on n'était pas amis. Un jour, quand il a vu mes opinions politiques, il avait mis un petit sticker d'Antifa sur sa porte pour me faire savoir que c'était contre moi. Je suis allé lui parler, je lui ai dit « Est-ce que c'est contre moi ?» Il m'a fait « Non, c'est pas contre toi. » Je savais que c'était clairement le cas. Bref. Tout nous opposait et on n'était absolument pas amis. J'étais bien plus ami avec un Italien et un Mexicain qui étaient avec nous, qui étaient des gens très sympathiques, et une Kazakh aussi, très gentille. Mais culturellement, je me sentais beaucoup plus proche de lui que je ne l'étais de mes amis, mais beaucoup plus proche. Mais ça n'avait rien à voir. Quand il disait quelque chose, je savais ce qu'il voulait dire, les gens ne comprenaient pas. Et ce n'était pas une barrière de langue parce qu'on parlait tous un très bon anglais, pas de problème de ce côté-là. Mais la psychologie, notre culture, nous a énormément rapprochés. Et je me rappellerai quand même toute ma vie de cette Allemande qui rentre dans l'appartement, qui nous dit « Bon, bah soirée ce soir, on se retrouve tous après dîner, rendez-vous 19h dans l'appartement au-dessus. » Et je lui dis « Mais à 19h, j'aurais pas mangé. » Voilà. Et qui nous voyait le soir en train de cuisiner, de nous faire, moi je me faisais un bœuf bourguignon, et qui disait « Mais vous cuisinez le soir, c'est incroyable. » Et nous, on lui raconte tout ce que ça veut dire, la cuisine pour nous, rencontrer notre famille, discuter. Et il ne comprenait pas ça. Et on a eu des échanges culturels qui étaient très intéressants, et je m'intéresse énormément aux cultures étrangères. Moi, en ce moment, je suis passionné par l'Inde, mais il y a cette différence culturelle que j'ai vraiment compris. Et c'est par l'expérience qu'on le comprend. Et d'ailleurs, je connais un certain nombre de personnes étrangères qui sont venues en France et qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas du tout françaises et parce qu'elles étaient avec ce contact à l'étranger. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on se réenracine. C'est en étant probablement très déraciné, intellectuellement et culturellement, et de sentir ce mal-être au fond de nous et de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà.
Et du coup, tu ne comprends pas avant un philosophe allemand plutôt qu'un philosophe français.
Non, ben ça, on peut avoir beaucoup d'admiration pour les philosophes allemands qui peuvent très bien traiter la chose nationale et qui peuvent très bien traiter nos idées. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on mette en avant un philosophe allemand plutôt qu'un philosophe français. Il y a beaucoup de philosophes français qui ont dit des très grosses bêtises. Il n'y a pas de problème sur ça. En revanche, j'ai un problème avec Nietzsche, c'est sûr. Parce que quand j'étais au lycée, alors c'était au début de mon réengagement à droite, donc fin seconde, j'ai découvert Nietzsche, et je le connaissais déjà de nom, mais faut arrêter, on lit pas Nietzsche quand on a 12 ans. J'avais essayé, parce que j'ai lu beaucoup de choses quand j'en avais 12 ans, moi j'ai lu Rousseau quand j'avais 12 ans, mais Nietzsche, imbuvable. Donc je l'ai redécouvert, et puis le côté surhomme, moi ça m'allait, à l'époque je faisais énormément de boxe, donc depuis je me suis blessé, là je recommence, mais à l'époque je faisais énormément de boxe, le côté surhomme nietzschien, j'ai eu ma petite phase aussi, alors elle n'a pas duré très longtemps, mais Nietzsche est l'inverse de tout ce que les gens de droite veulent lui faire dire en fait. Nietzsche, alors la synthèse nietzschéo-chrétienne de Rushdie, je suis désolé, mais il faut vraiment avoir une lecture très partielle de Nietzsche, hein, parce que Nietzsche, c'est quand même l'antichrétien, quand même, hein, et vraiment. Hein, et je vous invite à lire, alors j'ai un ami qui est adhérent à Force Solidaire, je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire, mais bon, maintenant c'est dit. J'ai un ami qui est youtubeur, qui s'appelle Moss Mayroom, et qui dirige une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Carmin, et qui a réédité Max Scheler, un autre philosophe allemand, L'homme du ressentiment, Et L'homme du ressentiment, c'est un livre, une déconstruction de Nietzsche. On l'appelait justement ce Max Scheler le Nietzsche chrétien. Et c'est une déconstruction de Nietzsche qui montre que Nietzsche n'a rien compris au christianisme. Et Nietzsche est justement un nihiliste, un athée. C'est une des sources intellectuelles de la destruction des nations et de la France en particulier. Et les Nietzschéens nous disent que non, Nietzsche, justement, c'est l'inverse d'un nihiliste et tout. En réalité, je vous le fais rapide.
Mais alors, pourquoi cette fascination de cette nouvelle génération?
Pourquoi cette... Parce que Nietzsche, il y a à boire et à manger. On peut tout lui faire dire. D'accord? Il y a des nazis qui se revendiquent de Nietzsche. Et, enfin, je ne l'invente pas, hein, les nazis se sont revendiqués Nietzsche. Et on a la French Theory qui s'est revendiquée de Nietzsche. On peut tout dire de Nietzsche. Pourquoi est-ce que ça fascine? C'est qu'il y a l'idée du surhomme. Et ça fait plaisir, le culte de la grandeur. On se dit que c'est le culte du héros, c'est le culte du chevalier. Nietzsche, ça n'est pas le culte du chevalier. Le surhomme, ça n'est pas le chevalier. Le surhomme, c'est celui qui s'affranchit des normes sociales et de son environnement. C'est l'inverse de l'homme traditionnel, le surhomme. C'est un homme reconnecté à la nature, mais pas un homme reconnecté à la culture. Et Pascal, qui est un auteur bien plus grand que Nietzsche, a cette phrase que tout le monde connaît, mais qu'il faut bien garder à la tête, en tête, et que je vous invite à garder en tête. L'homme n'est ni homme ni bête, enfin, pardon, l'homme n'est ni ange ni bête, pardon, mais qui fait l'ange fait la bête. Et en fait, quand l'homme oublie son animalité, il y retombe. Et c'est ça le surhomme, vouloir dépasser l'humanité, c'est tomber dans l'animalité. Et Nietzsche, il a ce côté absolument nihiliste, que les gens ne perçoivent pas forcément parce que justement Nietzsche combat en théorie les nihilistes. Alors je vais faire un tout petit récap de ce que ça veut dire, nihilisme. Nihilisme, c'est l'idéologie de la négation, c'est l'idéologie du néant. Et où est-ce qu'on peut rattacher le nihilisme? Il y a un roman de Tourguenieff, c'est un auteur russe qui s'appelle Père et Fils, qui dépeint ce qu'est un nihiliste. Le nihiliste est strictement matérialiste. Il y a cette phrase dans Tourguenieff où il dit que un chimiste vaut plus que 1000 artistes pour l'humanité. Et c'est ça le nihilisme. Le nihilisme, c'est celui qui nie l'âme, qui nie la transcendance, qui nie l'amour, qui nie toutes ces choses qui nous dépassent pour se concentrer uniquement sur lui et sur le monde physique. C'est ça le nihilisme à l'origine. Et Nietzsche, donc qui nie la transcendance. Pour faire clair. Et Nietzsche va dire, non, 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 le nihiliste, c'est celui qui nie le monde réel au profit d'une transcendance, et il va dire que le christianisme est un nihilisme parce qu'il attend le salut en dehors d'un monde qui n'existe pas. Et c'est ça Nietzsche, du coup. Il va subvertir le mot nihilisme, dire qu'il combat les nihilistes, pour en réalité être le plus grand des nihilismes au sens original du terme. Et c'est ça le problème de Nietzsche, c'est qu'il y a une subversion de tous les mots, il y a une subversion des pensées, et c'est très malheureux, et
Mais
c'est un retour
tu as
d'ailleurs au
aussi un côté,
néo-propagandisme.
le problème aussi à droite, c'est qu'on veut constamment s'intellectualiser, et tu as un
Ce qui est très
côté,
bien.
c'est bien, mais pas trop. Il faut parfois, il faut lire des livres, hein, c'est très important pour votre culture, pour votre idéologie aussi, pour la force de votre idéologie, mais c'est très important aussi de sortir des livres, parfois de les fermer et d'aller dans la rue, ce que les droitards ne font pas et ce que moi je leur reproche. Parce que malheureusement, et ce n'est pas ton cas parce que toi tu vois, tu milites, mais beaucoup d'entre nous ne militons pas, n'allons pas voir les gens, ne nous collons pas avec le peuple. Et ça, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que dans ce milieu, nous n'aimons pas le peuple, nous n'aimons pas les gens. Je sais pas si tu as un peu la même conclusion que moi là-dessus.
Je pense que c'est très important de s'intellectualiser, de réfléchir. Et moi, je lis énormément, je ne nierai jamais, et je cherche à former mes adhérents, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il faut allier pensée et action. Alors, je le dis à tous mes adhérents systématiquement, penser sans agir, c'est inutile. C'est la posture du sage qui contemple de la montagne, ironiquement, en disant, ces humains sont si bêtes, ils s'agitent dans tous les sens et ils ne voient pas la grandeur d'âme des choses auxquelles je pense. Ok, très bien. Mais la grandeur d'âme auxquelles tu penses, eh bien, elle n'aura jamais lieu parce que tu ne te bouges pas. Mais il ne faut pas non plus agir sans penser, parce que sinon on fonce droit dans le mur. Et bon, allez, hop, encore une petite pique à Thaïs d'Escuffon. C'est pas juste en agitant des fumigènes qu'on va faire avancer les choses. Il faut d'abord, parce qu'on ne comprend pas fondamentalement le problème. Donc il faut comprendre les causes du problème pour ensuite agir dessus. Et chez Force Solidaire, on a les deux. On a des gens qui veulent toujours être dans la pensée et qui voudraient qu'on soit qu'un laboratoire d'idées, et des gens qui veulent qu'on fasse que de l'action et qu'on arrête de réfléchir. Et moi, je leur dis non. Aujourd'hui, un mouvement politique, il fait les deux. On réfléchit et on agit, parce qu'on fait les choses pour qu'il y ait un changement concret. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est une alliance des deux.
Comment du coup militer à Force Solidaire? Comment s'inscrire à Force Solidaire?
Ah
Si tu
bien,
es un jeune, voilà, vous êtes
écoutez,
des jeunes, tu voulais vous inscrire à Force
nous,
Solidaire.
on prend tout le monde. On prend les vieux, les jeunes, les moins jeunes, voilà, à partir de 16 ans, avec accord des parents, sinon à partir de 18 ans, bien sûr, librement. Alors, il suffit d'aller sur forcesolidaires.fr et vous avez un petit onglet adhérer ou nous rejoindre, je ne sais plus exactement. L'adhésion, elle est à 10 euros par an. Alors, nous, ce qu'on fait, on ne fait pas le système habituel des gens, c'est-à-dire de dire, bon, bah, c'est 30 euros et pour les étudiants, c'est 10 euros. Pour tel les chômeurs, c'est 10 euros et tout. Nous, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement comme manière de faire. Je mets une adhésion minimale qui est la même pour tout le monde et ensuite chacun met selon ses moyens.
Bah, très
La
bien.
plupart de nos adhérents
Et
mettent 10 euros.
ce qui est important aussi dans les mouvements et pourquoi aussi il faut s'engager, donc j'invite les jeunes qui nous regardent à s'engager à Force Solidaire, c'est aussi connaître des aventures humaines.
C'est vrai.
Et de moins en moins de jeunes, de nouvelles générations. Moi, je vais te dire, bon, bah, je suis plus vieux que toi, hein, je suis 81, donc tu vois, je suis vraiment un vieux pour le coup. Je me suis inscrit à l'époque en 99 au RPR, j'étais entre RPR, parce que, bon. Je voulais vivre une aventure humaine politique. Voilà. Et je voulais connaître des gens, je voulais faire le tour de France. Bon, je voulais aussi monter les échelons. Bon, ça, j'étais très opportuniste à l'époque. Et donc, du coup, je remarque qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ne vivent pas ça. C'est-à-dire qu'elles s'enferment entre leurs quatre murs, elles sont essentiellement soit sur YouTube pour le plus politisé, soit sur Netflix pour celui qui s'en fout, et ne rencontrent pas les gens. Ils sont essentiellement des masses d'individus. Donc, ce qu'il faut, c'est voilà, vivre une aventure humaine. Moi, j'imagine que si demain, moi, j'ai 18, 19, 20 ans, je m'inscris à France Solidaire, j'aurai, je sais pas moi, des soirées, je rencontrerai d'autres jeunes de mon âge, des choses comme ça.
Alors oui, on a un petit mouvement, ce qui fait que malheureusement, on ne peut pas être présent partout en France, mais on cherche à créer des sections un peu partout. Aujourd'hui, donc à Nancy et à Paris, c'est là où il y a le plus de personnes, mais il y en a un peu partout quand même. Et oui, on essaye d'organiser, alors on essaye que les gens se rencontrent. C'est pas toujours facile parce que parfois des gens habitent loin, mais quand c'est possible, on se rencontre. Et sinon, dans tous les cas, on discute beaucoup. On a un serveur Discord, dans tous les cas, qui est ouvert au public. C'est-à-dire que chez nous, il y a de tout sur le serveur Discord. Il y a des gens de gauche, de centre et tout, ce qui énerve beaucoup les gens, mais parce que notre but, c'est de s'adresser à tout le monde. Il y a des salons réservés aux adhérents, bien entendu. Et oui, on cherche vraiment à créer du lien. Et on a déjà fait un camp d'été. Alors, c'était avant qu'on s'organise vraiment en mouvement politique. Je compte en refaire un. Mais il y a des aventures humaines, de vraies amitiés qui se sont créées chez Force Solidaire, très solides. Moi, le premier, par exemple, mon secrétaire général, donc Pierrick Servouz, est un très bon ami aujourd'hui. On se fait, et d'autres, hein, bien sûr, du mouvement. Et on
Il y a
se
des
fait.
filles aussi ou pas?
Il y a des filles aussi, alors malheureusement elles sont très minoritaires, mais il y a des filles, et notamment des filles très brillantes. Donc voilà.
Bon, c'est une bonne chose.
Mais attention, hein, ça n'est pas un réseau drague, hein. Alors là, on vous repère.
On avait compris, mais bon, c'est bien aussi qu'il y ait des filles. C'est
Oui,
intéressant
bien
quand
sûr.
même. Ma dernière question, malgré tout ce qu'on s'est dit, malgré voilà, le délabrement malheureusement de nos églises, de ces 5 000 églises qui malheureusement seront détruites d'ici 2030, espérons que non, est-ce que tu as confiance dans l'avenir de ce pays, dans l'avenir de ton combat aussi? Est-ce que la confiance est là et l'optimisme est là?
Est-ce qu'à 22 ans, on peut être pessimiste? Oui.
Y a beaucoup
Et
qui le sont, hein, dis-moi, dis-moi.
il y en a beaucoup qui le sont. Il y en a beaucoup qui le sont. C'est pour ça que je dis oui. Mais est-ce que c'est normal? Non. Ça fait aussi partie de la dégénérescence en général. Je suis tout à fait optimiste. Je suis très optimiste. Même si demain je dois perdre, je le ferai en me disant jusqu'au bout que j'ai eu une chance de réussir. Et je suis optimiste parce que j'ai des résultats. Je sais que moi, j'ai été à un moment de l'autre camp, du camp d'en face. Alors, ça fait longtemps que j'en suis revenu, mais j'ai été du camp d'en face pendant 1 ou 2 années. Et des gens, des adhérents de Force Solidaire étaient du camp en face et on les a convaincus. Je dirais qu'au moins un tiers de nos adhérents viennent du camp d'en face à l'origine. Et ça, c'est ce qui fait notre force. Je sais qu'on peut convaincre les gens et je sais qu'on peut être entendu. Regardez-moi, j'aurais pu très bien faire une carrière dans un autre mouvement politique que je respecte tout à fait et sans doute avoir une très très bonne carrière là-dedans. D'ailleurs, on m'a fait plusieurs propositions de poste et je ne l'ai pas fait. Et pourtant, à force de travail avec des gens bien entourés, ben voilà, on se retrouve sur différents médias, on discute, on gagne en visibilité, on produit du contenu intellectuel sérieux. On a de quoi vaincre, on a de quoi gagner et sur le long terme, on va gagner. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de discours mobilisateurs. Donc oui, je suis optimiste, soyez optimiste et ayez confiance dans l'avenir et surtout, ne cessez pas de vous battre.
Merci beaucoup, cher Raphaël. On a passé 1 heure et demie passionnante, toi et moi. Merci beaucoup. Passez tous une excellente soirée. Demain midi, spécial Pierre Palmade avec Gérard Fauré. Merci à tous. Salut, ciao.